Aujourd'hui, au Radio-Journal, des questions embarrassantes pour François Legault.
Quel est le coût moyen du loyer pour un appartement 4,5 à Montréal?
On va vous revenir.
Le premier ministre est mis à l'épreuve par les chefs des partis d'opposition en commission parlementaire. Une procédure jamais vue aux communes depuis 1913.
Au nom de la Chambre des communes, je vous admoneste.
Un citoyen est réprimandé en personne par le président de la Chambre. Et un fléau qui ne fait que prendre de l'ampleur.
En 2023, le nombre de fraudes déclarées aux différents services de police du Québec s'est élevé à près de 36 000.
Et ce ne serait qu'un aperçu des ravages faits par les fraudeurs. Bonjour, ici Jean-Sébastien Bernatché. L'heure est à la reddition de comptes cet après-midi pour François Legault. Le premier ministre du Québec répond aux questions des chefs des partis d'opposition à l'occasion de l'étude des crédits, un exercice qui se tient dans la foulée du dépôt du budget le mois dernier. Pierre-Alexandre Bolduc est à Québec. Pierre-Alexandre, ça ne se limite pas au budget. François Legault en profite pour défendre le bilan de son gouvernement?
Absolument, parce que c'est une genre de grosse période de questions qui dure 3 heures, Jean-Sébastien, et ça peut ressembler à un quiz parfois, avec des questions banales, mais qui peuvent en dire beaucoup. Le premier ministre François Legault s'est fait interroger sur le prix d'un logement à Montréal. Une question semblable lui avait été posée par Manon Massé, la co-porte-parole de Québec solidaire, en 2021, et ça l'avait mis dans l'embarras. Le chef du Parti libéral, Marc Tanguay, lui a demandé cet après-midi le coût moyen d'un loyer pour un appartement 4,5. François Legault a demandé à ses conseillers autour de lui de sortir les chiffres. On va écouter ce que ça a donné.
Combien ça coûte à Montréal un 4,5? C'est 2 chambres.
On va vous revenir.
Donc, vous n'avez pas l'information?
Je n'ai pas l'information exacte, puis je ne veux pas prendre la chance de me tromper, même de 100 $ par mois, parce que vous allez en profiter.
Et toujours dans le cadre de cet exercice, le premier ministre répète qu'il sera candidat en 2026.
Oui, François Legault considère qu'il mérite un troisième mandat. Il dit qu'il a réduit l'écart de richesse avec l'Ontario, développé une filière batterie et qu'en raison de la pandémie, Jean-Sébastien, il est encore en rattrapage sur ses objectifs. Marc Tanguay du PLQ a demandé au premier ministre de se donner une note sur 10. On l'écoute.
Quelle note sur 10?
Ben, écoutez, là, on est-tu à génie en herbe ou je sais pas, là, mais c'est pas à moi de me donner une note. Là, c'est aux Québécois de me donner une note. Ils m'en ont donné une en 2018, une en 2022, puis la prochaine, ça va être en 2026.
L'exercice Jean-Sébastien se poursuit jusqu'à 18 heures.
Et donc, il sera candidat en 2026. Merci beaucoup, ouais, Pierre-Alexandre.
Voilà. Au revoir.
Toujours au Québec, l'Autorité des marchés publics inscrit 6 agences de placement de personnel dans le domaine de la santé au registre des entreprises non admissibles au contrat public. Selon les informations obtenues par Radio-Canada, aucune ne satisfait aux exigences d'intégrité. Ces 6 agences de placement n'auront plus accès au contrat public pour une période de 5 ans. Plusieurs de ces entreprises fournissent des centaines d'infirmières et de préposés aux bénéficiaires au réseau de la santé. Et c'est dans ce contexte que les négociations doivent reprendre entre la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec et le gouvernement Legault, puisque l'entente de principe qui avait été conclue a été rejetée, la mobilité du personnel est un des principaux points d'achoppement. Diana Gonzalez a préparé ce qui suit.
Moi, ça fait 10 ans que je travaille ici. Je voudrais vraiment pas qu'on me déplace.
Mélanie Cloutier est infirmière auxiliaire dans un CHSLD de Montréal. Elle a voté contre l'entente de principe conclue entre la FIC et Québec.
C'est un choix ici que j'ai fait donnant ma vie. Mon choix de carrière a été comme je veux être infirmière auxiliaire en CHSLD. J'ai traversé aussi la pandémie qui fait que ça m'a donné encore plus d'assurance côté personnes âgées. Ça a confirmé mon choix.
Les syndiqués ont rejeté à 61% cette entente. Denis Cloutier, président du syndicat des professionnels en soins de l'Est de l'île de Montréal, explique que la mobilité demandée par Québec a suscité le mécontentement.
Fait qu'elles savent à quoi s'attendre à cause de la Mauricie Centre du Québec. On a vu que quand il n'y a pas de balise, des chefs peuvent aller très loin et mixer des choses qui n'ont rien à voir ensemble. Ça a poussé le monde vers la dépression, beaucoup de démissions. On ne veut pas vivre ça à la grandeur du réseau.
La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a quant à elle réitéré la position de son gouvernement.
On ne bougera pas sur les objectifs de souplesse. C'est important d'avoir de la mobilité, une certaine mobilité dans le réseau parce qu'on doit être capable d'avoir toute la couverture de services nécessaires.
L'entente de principe prévoyait la formation pour le personnel qui serait déplacé. Mélanie Cloutier estime que ce n'est pas suffisant. Ici, Diana Gonzalez, Radio-Canada, Montréal.
Au lendemain du dépôt du budget à Ottawa, Justin Trudeau et Pierre Poilievre se sont accusés l'un l'autre d'oublier la classe moyenne. Le chef libéral a soutenu que les conservateurs s'opposent à ce que les plus riches de la société paient davantage d'impôts. Le budget prévoit notamment une augmentation de l'impôt sur le gain en capital de plus de 250 000 $. Le chef conservateur lui affirme que les libéraux sont responsables de la crise du logement. Son parti ne votera pas pour le budget. Voici Pierre Poilievre, suivi de Justin Trudeau.
Les milliardaires qu'il invite sur des îles privées, eux autres, ils vont cacher leur argent. Qui va payer? La même personne que toujours. Vous allez payer.
Et oui, on demande aux mieux nantis de contribuer un peu plus. Pendant que M. Le chef de l'opposition prône encore l'austérité et défend les mieux nantis, nous allons être là pour la classe moyenne des légers.
Et restons à Ottawa, le fiasco de l'application ArriveCan a donné lieu à un événement extrêmement rare aux communes aujourd'hui. L'un des partenaires de l'entreprise au cœur du scandale comparaît présentement devant la Chambre des communes pour répondre aux questions des élus. Christian Noël va nous en dire plus, je le joins dans la capitale fédérale. Christian, c'est un événement que l'on pourrait qualifier d'historique. Expliquez-nous pourquoi exactement.
Parce que le Parlement a utilisé une mesure exceptionnelle. Pour la première fois en plus de 100 ans, il y a un simple citoyen qui a été convoqué en personne aux communes pour être admonesté, réprimandé par le président de la Chambre et questionné par les députés. Il s'agit de Christian Furth, le partenaire de chez GC Strategies, au centre de la controverse de l'application ArriveCan. Il est accusé d'avoir menti aux députés en comité et dans un moment solennel et historique, il a été accusé d'outrage au Parlement et devait ensuite se présenter pour une période de questions que M. Furth a tenté d'éviter en invoquant des raisons médicales, mais les conservateurs ont refusé. Voici le député libéral Stephen MacKinnon.
Nous voulons que cela se fasse dans le respect de la dignité du Parlement. Et forcer quelqu'un contre l'avis d'un médecin à faire quelque chose qui, selon le médecin, pourrait nuire à son traitement et à sa guérison, est en effet indigne de ce lieu.
Et Christian, bon, l'interrogatoire a eu lieu et se poursuit. Qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à maintenant?
Mais M. Furth a reconnu avoir menti et tergiversé le mois dernier en comité et reconnaître l'ampleur de son geste. Voici le député conservateur Luc Berthold.
Je comprends que le témoin a menti à plusieurs reprises au comité et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui pour tenter de découvrir la vérité. Est-ce que M. Furth peut nous confirmer qu'il a volontairement évité de nommer ses sources au sein du gouvernement libéral pour protéger son payant modèle d'affaires?
Il dit que non, mais il a finalement nommé des hauts fonctionnaires qu'il refusait de nommer auparavant. Il a admis avoir rencontré des fonctionnaires à l'extérieur des heures de travail et confirmé qu'aujourd'hui, la GRC a fait une descente chez lui concernant un contrat avec l'Agence des services frontaliers. Son témoignage se poursuit.
Merci, Christian.
Je vous en prie.
Les cas de fraude se multiplient d'année en année au Québec. Près de 35 000 personnes ont signalé en avoir été victimes en 2023. L'Association des directeurs de police est d'autant plus préoccupée par cette tendance que les nouvelles technologies facilitent de plus en plus ces escroqueries. Précision d'Éric Plouffe.
La fraude ne connaît pas de frontières. Elle peut toucher chacun d'entre nous.
Selon Patrick Bélanger de l'Association des directeurs de police du Québec, le nombre de Québécois victimes de fraude a augmenté de 15 % en 2 ans. Celui qui est aussi chef du service de police de l'agglomération de Longueuil déplore qu'il y a de nombreuses victimes qui choisissent de ne pas porter plainte.
Évidemment, il ne faut pas hésiter à signaler ces faits. En agissant ainsi, vous contribuez non seulement à combattre activement la fraude, mais aussi à protéger et aider les autres concitoyens du Québec.
Les régions de Montréal, de la Montérégie et de la Capitale-Nationale sont les régions où on retrouve le plus grand nombre de victimes de fraude en 2023. Les fraudes commises par un faux représentant d'une institution bancaire sont parmi les plus courantes. La Sûreté du Québec affirme épingler régulièrement ces auteurs. L'inspectrice en chef, Isabelle Boudreau.
Ça en fait à toutes les semaines avec tous nos collègues de tous les corps de police. Donc, on se réunit régulièrement. On en profite pour mettre en commun nos dossiers. Donc, je peux vous dire qu'avec nos collègues de partout en province, ce type d'arrestation-là, c'est très courant.
Option consommateur a par ailleurs publié un sondage qui révèle que 30 % des Canadiens affirment avoir été victimes d'une fraude bancaire. L'enquête révèle notamment que les victimes ont de la difficulté à utiliser un outil qui est nouvellement offert au Québec pour se protéger contre le vol d'identité, soit le gel ou le verrouillage du dossier de crédit. Éric Plouffe, Radio-Canada, Montréal.
Et en Ontario, la police régionale de Peel a arrêté 6 personnes à la suite de son enquête sur le plus grand vol d'or de l'histoire du pays. 2 des accusés sont des employés d'Air Canada qui auraient facilité ce vol survenu l'an dernier lorsque 6600 lingots d'or d'une valeur de plus de 2 millions de dollars ont disparu d'un hangar de l'aéroport Pearson de Toronto. Voilà, nous vous avons présenté le Radio-Journal. Pour d'autres nouvelles, consultez l'application Info de Radio-Canada.